France Culture.
Le journal est signé Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Des perspectives préoccupantes, mais pas de déficit caché. C'est en substance la conclusion du rapport de la Cour des comptes sur la situation financière des retraites. Un diagnostic commandé par le Premier ministre qui va donc servir de base à de nouvelles négociations entre partenaires sociaux. Elles doivent durer 3 mois. Le gouvernement qui recourt au décret pour entériner l'abaissement du plafond des indemnités versées par la Sécurité sociale en cas d'arrêt maladie. Mesure qui doit entrer en vigueur le 1er avril pour les salariés. Nous reviendrons sur la proposition de loi des écologistes pour restreindre les PFAS, texte définitivement adopté aujourd'hui et qui instaure notamment une obligation de contrôle des eaux potables et de leur dépollution. Après les dirigeants européens, après ceux de l'OTAN, Emmanuel Macron a reçu 3 heures durant les chefs des principaux partis politiques aujourd'hui dans l'espoir de provoquer une prise de conscience sur la situation en Ukraine. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a reçu aujourd'hui la visite de l'émissaire américain Keith Kellogg dans un contexte d'extrême tension entre Washington et Kiev après les invectives de Donald Trump. C'est un rapport commandé par le Premier ministre, dont les conclusions le contredisent. La Cour des comptes a rendu ce matin son rapport sur la situation financière des caisses de retraite. Et non, il n'y a pas de déficit caché, estime la juridiction. D'après elle, il atteindra environ 15 milliards d'euros à l'horizon 2030, ce déficit, et 30 milliards à l'horizon 2045. Des chiffres proches de ceux du Conseil d'orientation des retraites, mais très éloignés donc de ceux évoqués mi-janvier par François Bayrou, qui avait estimé le déficit à 55 milliards. Alors, l'hypothèse de déficit caché étant écartée, passons aux choses sérieuses, lance Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Bonsoir, Wafia Kenich.
Bonsoir, Julie.
Car ce rapport de la Cour des comptes sert de base à une nouvelle séquence de discussions entre partenaires sociaux et les désaccords Wafia restent nombreux.
Oui, les syndicats n'ont pas manqué de réagir à la mi-journée après la remise de ce rapport et de soulever que l'une des conclusions de ce document, c'est que la réforme de 2023 ne suffit pas à résorber le déficit, comme l'a constaté Marie-Lise Léon de la CFDT.
La réforme de 2023 qui nous avait été présentée comme incontournable, en fait, ne produit absolument pas les effets qui étaient attendus. Donc on a eu raison syndicalement de contester cette réforme extrêmement injuste, brutale.
Une réforme qui n'a donc rien résolu financièrement, estime-t-elle, et sur laquelle il faut travailler, estime Michel Bogaz de FO, sans se focaliser sur le seul recul de l'âge de départ.
C'est la pire des solutions que de bouger la borne d'âge. Voilà. C'est celle qui bénéficie tout de suite, voilà, mais quand on regarde, au bout de 5 ans, plouf, en fait, le bénéfice de la borne d'âge tombe. Et donc, ça pourrait vouloir dire qu'on remet 2 ans, tous les 3 ans, pour dire que ben il faut équilibrer le système. Et comme ça, à terme, vous risquez plus d'avoir des retraités et donc ça coûtera plus grand-chose.
La mise en péril du système par répartition est aussi menacée par idéologie, par le patronat, selon la CGT. Sophie Binet met en garde quant aux objectifs des futurs échanges.
Le sujet de ces discussions, c'est le renforcement de notre système par répartition. Ça ne peut pas être de le compléter par un système par capitalisation et de confier nos retraites aux fonds spéculatifs, à la finance, pour pouvoir spéculer avec l'argent de nos retraites.
Organisations syndicales et patronales doivent se retrouver pour entamer les débats de fond, cette fois-ci le 27 février prochain, Julie.
Wafia Kenich, le gouvernement toujours en quête d'économie sur les dépenses publiques et qui confirme par ailleurs qu'il compte prendre dans les prochains jours un décret, sans validation donc du Parlement, pour changer les règles d'indemnisation des arrêts de travail par la Sécurité sociale. À compter du 1er avril, bonsoir Kevin Magnard, la Sécu va donc abaisser le plafond de revenus qui sert au calcul des indemnités journalières.
Oui, actuellement, si un salarié du privé est en arrêt, à partir du 4e jour, l'assurance maladie prend en charge 50% du salaire, dans la limite de 1,8 SMIC. Et bien, à partir du 1er avril, ce plafond de revenus sera rabaissé à 1,4 SMIC, soit une indemnité en baisse de 20%, de 53 à 41 euros bruts par jour. Selon les calculs du Centre National des Institutions de Prévoyance, la baisse d'indemnisation va toucher plus d'un Français sur deux et représentera un manque à gagner de 360 euros par mois pour les salariés les plus impactés. Michel Gaudron est le vice-président du CETIP.
C'est un nouveau transfert de charges, 800 millions d'euros supplémentaires de la Sécurité sociale vers les complémentaires santé. Et forcément, comme elles doivent être équilibrées, eh bien la seule solution, c'est d'augmenter les cotisations sociales complémentaires. Et donc, ça touche directement le pouvoir d'achat des salariés, mais aussi la compétitivité de nos entreprises.
Et d'ailleurs, comme le CETIP, le Conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie avait rendu un avis défavorable sur cette mesure qui va donc passer par décret. Le même procédé a été utilisé pour revenir cette fois sur l'indemnisation des arrêts de travail des fonctionnaires à compter du 1er mars. Ils ne seront plus indemnisés qu'à hauteur de 90% de leur traitement au lieu des 100% actuellement pendant les trois premiers mois. Là encore, les détracteurs de cette mesure dénoncent une décision purement budgétaire qui ne résoudra rien au fond du problème, celui de l'explosion ces dernières années du nombre d'arrêts de travail dans la fonction publique comme dans le privé.
Camille Magnard, il ne s'agit pas d'un décret mais bien d'une proposition de loi, celle approuvée définitivement aujourd'hui par l'Assemblée nationale et qui vise à restreindre la fabrication et la vente de PFAS, ces polluants éternels massivement présents dans notre vie quotidienne. Le texte déjà adopté par le Sénat a été débattu aujourd'hui dans le cadre de la niche parlementaire des écologistes. Il a été approuvé par 231 députés, 51 ayant voté contre, principalement étiqueté Rassemblement National. Alors, parmi les grandes mesures de ce texte, l'obligation de contrôler systématiquement la présence de ces produits chimiques dans les eaux potables, ainsi que, bonsoir Célia Goetti.
Bonsoir.
Ainsi que la dépollution de ces eaux potables.
Oui, et pour dépolluer, il faut d'abord savoir où se trouve la pollution aux alkyles perfluorés et polyfluorés. Le texte voté aujourd'hui prévoit la mise en place de contrôles systématiques des eaux, d'une création d'une carte des sites ayant pollué ou polluant actuellement. Impossible pourtant d'entamer une dépollution des cours d'eau, selon François Villerette de l'association Génération Future.
Dépolluer l'ensemble de l'environnement, par exemple, si dans une rivière vous avez eu des PFAS, il y en a beaucoup, donc ils ont été déversés, il faudrait draguer l'ensemble des boues, vases, pour en faire des déchets qu'on va incinérer, enfin ouais, à haute température. Vous voyez, là, on est dans un truc qui est complètement fou, qui ne semble pas du tout réalisable.
La loi demande donc seulement le traitement de l'eau potable et les déchets seront renvoyés dans la nature. Du fait de la taille des PFAS, l'eau doit être passée par un procédé d'osmose inversée, particulièrement fin, mais aussi particulièrement cher, François Villerette.
Pour un seul syndicat d'eau, qui est le CEDIF, qui est au nord de Paris, les coûts de construction de trois usines de dépollution, c'est entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Dans des zones très densément peuplées, on peut trouver des ressources pour le faire, mais dans les zones où non densément peuplées, ça coûte tellement cher que c'est pas du tout accessible à des collectivités qui sont en zone rurale, par exemple.
Coût total estimé, selon une enquête du journal Le Monde, entre 95 et 2000 milliards d'euros à dépenser sur 20 ans. Le financement des usines de traitement doit être aidé par le principe de pollueur-payeur. La loi prévoit que les entreprises payent 100 euros pour chaque 100 grammes de PFAS déversés dans l'eau.
Célia Goetti, puis autre disposition de ce texte, l'interdiction de la fabrication et de l'importation, ainsi que de la vente de tout produit cosmétique ou produit textile d'habillement contenant des PFAS, interdiction en vigueur l'année prochaine. 2024, année faste pour Airbus, porté par plus de 820 nouvelles commandes l'année dernière. L'avionneur européen a vu son bénéfice net bondir de 12% à 4,2 milliards d'euros. Une performance qui fait d'Airbus le numéro 1 incontesté de l'aviation civile, et ce malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Des bons chiffres qui alertent les associations environnementales. Alors que l'aviation représente 2% des émissions de CO2 à échelle mondiale, Alexis Chaillot est responsable transport à l'ONG Réseau Action Climat et il réclame davantage de régulation.
La conclusion vraiment unanime de toutes les études et modélisations sur la décarbonation de l'aérien, c'est qu'il faut limiter le nombre de vols, donc limiter le nombre d'avions en circulation. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à respecter un budget carbone, on n'arrivera pas à respecter l'accord de Paris. Et donc il faut que, au niveau français, au niveau européen, les responsables politiques prennent le sujet à bras-le-corps et assument une réduction planifiée, progressive, anticipée du nombre de vols, parce que sinon, on risque d'augmenter nos émissions à l'infini, d'aggraver le dérèglement climatique, et donc finalement d'avoir des chocs encore plus graves et difficiles à encaisser que si on planifiait cette réduction. Il faut savoir que l'Europe a vraiment une responsabilité historique sur les émissions du secteur aérien. Jusqu'ici, c'est les pays occidentaux, les habitants des pays occidentaux qui ont beaucoup plus pris l'avion que les autres pays. Juste un chiffre pour illustrer ça, on estime que 1% de la population mondiale est responsable de la moitié des émissions de l'aérien. Donc c'est vraiment concentré dans les pays occidentaux, en tout cas aujourd'hui, et il serait logique que ce soit les premiers pays à s'engager à une limitation du nombre d'avions en circulation.
Alexis Chaillot de l'ONG Réseau Action Climat avec Hakim Kasmi. Devant la cour d'assises spéciale de Paris, les témoignages se poursuivent au procès du djihadiste Medine Mouche et de quatre autres accusés soupçonnés d'avoir été les geôliers des quatre journalistes français détenus pendant plus de 11 ans par le groupe État islamique. Des journalistes français qui n'étaient pas les seuls, une vingtaine d'autres, journalistes et humanitaires de diverses nationalités ont été également enlevés et détenus et certains ne sont pas revenus, comme David Hines, humanitaire britannique, décapité par ses ravisseurs et dont les proches, partie civile, sont venus déposer aujourd'hui à la barre. Sa veuve et ses deux filles ont livré des témoignages poignants. Florence Turm.
Hey ma chérie, j'espère que tu vas bien. Je travaille en Turquie et je suis heureux. Je t'aime. Le 12 mars 2013, mon père m'a envoyé le tout dernier message qu'il ne m'enverrait jamais. À la barre, une grande jeune femme aux longs cheveux noirs. Mon nom est Bethany. Je suis la fille de David Haynes, un homme qui a passé sa vie à aider les gens. Hey dad, lui répond-elle, moi je suis très occupée. Puis ces messages qui resteront sans réponse et qu'elle crie presque dans la salle d'audience. Mon partiel s'est bien passé. J'espère que tu n'es pas en colère contre moi. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai eu une journée horrible. Je suis désolée. Rappelle-moi. L'inquiétude qui cède la place à la panique. Papa, tu me fais peur. Où es-tu, papa ? Il était détenu, poursuit-elle, battu, supplicié, électrocuté, torturé, puis l'attente jusqu'au 13 septembre 2014 où la police frappe à sa porte. J'ai senti qu'une partie de moi était morte aussi, poursuit la jeune femme. L'image de la tête coupée de mon père, je la vois chaque fois que je ferme les yeux. Derrière elle, sa jeune sœur se blottit dans les bras de sa mère. Elle n'avait que 2 ans quand David Haynes est parti en Syrie, trop petite et trop innocente, dit-elle, pour réaliser que certains au revoir se disent pour toujours. Sa mère alors n'a pas voulu lui parler de l'enlèvement ni lui annoncer tout de suite l'issue tragique. J'ai passé la nuit à pleurer en silence à côté de son lit et continué pendant 3 mois à porter le masque de force que je m'étais fabriqué. 3 femmes qui se sont serrées sur leur banc lorsque cet autre humanitaire est venu évoquer les 14 mois passés dans les geôles syriennes. David, il avait 2 filles. Et chaque jour, il prenait un moment pour parler dans sa tête avec elle.
Florence Turm, la cour d'assises spéciale de Paris pour France Culture. Face à la rhétorique de Donald Trump quant au règlement de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron tient une séance de questions-réponses en quelques minutes sur ses réseaux sociaux. Le chef de l'État veut réaffirmer la position de la France sur le sujet et celui de la sécurité en Europe, alors que les revirements du président américain ne cessent d'inquiéter l'Élysée. Emmanuel Macron, qui a déjà organisé 2 réunions cette semaine avec des dirigeants européens et de l'OTAN, a également reçu à la mi-journée les différents chefs de parti. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Julie.
Une réunion de près de 4 heures à huis clos pour évoquer cette situation Ukraine dans l'espoir, Rosalie, de provoquer une forme de prise de conscience.
Oui, le chef de l'État est préoccupé, disent ses équipes, entre la menace existentielle que représente la Russie et l'instabilité de notre allié américain. Il faut prendre conscience, appuie un conseiller, qu'on est en train de changer de monde.
Tout le monde est d'accord pour dire que la situation est grave.
Tous d'accord aussi pour dire que la voix de la France doit peser, mais comme le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, chacun tient sa ligne derrière sur la réponse à apporter.
Nous avons été plusieurs à pointer les contradictions qu'il y a à discuter avec le président des États-Unis et peut-être le pousser dans ses retranchements et de l'autre côté de rester dans l'OTAN et de construire une politique européenne de défense dans l'OTAN. Et donc, comment être non aligné tout en restant aligné ?
C'est bien au niveau européen que tout doit se jouer, insiste la numéro 1 des écologistes, Marine Tondelier.
Parce que nous sommes un seul et deux au pied du mur, et donc il n'y a qu'avec une solution européenne que nous pourrons nous en sortir. Il faut considérer que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.
Le chef de l'UDR, allié du Rassemblement national, Éric Ciotti, plaide, lui, pour avant tout réarmer la France.
Ce que j'ai demandé au président de la République, c'est que cette paix que nous souhaitons tous ne s'accompagne pas d'engagements qui porteraient encore plus atteinte aux intérêts fondamentaux de notre pays et de l'Europe. Donc pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Un débat sur l'Ukraine et la stratégie de la France est prévu pour début mars au Parlement. Plusieurs formations politiques réclament, ce qui n'est pour l'instant pas au programme, qu'il soit suivi d'un vote.
Rosalie Lafarge, Emmanuel Macron, qui devrait se rendre à Washington la semaine prochaine pour y rencontrer notamment Donald Trump. Première rencontre depuis l'investiture du président américain. Le président américain qui multiplie donc les invectives contre son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qualifié de dictateur sans élection hier, accusé d'être à l'origine de la guerre déclenchée par Moscou. C'est dans ce contexte d'extrême tension et de crainte de rupture entre Washington et Kiev que Volodymyr Zelensky a reçu aujourd'hui la visite de l'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg. Mais la conférence de presse conjointe qui devait suivre initialement leur entretien n'a pas eu lieu, signe des tensions diplomatiques entre les deux pays. Le général Keith Kellogg, missionné par Donald Trump, est un Trumpiste de la première heure. Bonsoir Valérie Cantier.
Bonsoir.
Trumpiste de la première heure, mais il est apparu pourtant plus conciliant que les autres acteurs américains dans ce conflit à son arrivée hier à Kiev.
Oui, Keith Kellogg est un vrai partisan de Trump. Il était déjà son conseiller en politique étrangère lors de sa campagne de 2016 et est resté dans l'équipe Trump lors du premier mandat au Conseil de sécurité nationale de Trump, puis du vice-président Mike Pence. À 80 ans, il est désormais envoyé spécial de l'administration pour la Russie et l'Ukraine. Cet ancien des forces spéciales et de la guerre du Vietnam, décoré à plusieurs reprises, est à la retraite de l'armée depuis 22 ans. Conservateur traditionnel, il n'est pas un proche de la Russie, comme l'est par exemple Tulsi Gabbard, nommée par Donald Trump directrice de tout le renseignement américain. En conférence de presse la semaine dernière, voici tout ce que Donald Trump avait à dire sur lui.
Le général Kellogg est un gars excellent. Il passe son temps à faire différentes choses. On a plusieurs personnes qui travaillent sur plusieurs sujets en ce moment. Quand j'ai quitté mes fonctions il y a 4 ans, on n'avait pas de guerre, pas de problème. Aujourd'hui, le monde entier explose. Alors on se bat.
Keith Kellogg n'est pas tout à fait sur la ligne Trump quant à la manière d'arriver à la paix. Pour lui, l'Ukraine doit participer au pourparlers avec la Russie et a légitimement besoin de garanties. C'est ce qu'il a écrit dans un document en avril dernier pour l'Institut America First.
Valérie Cantier, c'est une journée de deuil en Israël. Alors que les 4 corps remis par le Hamas sont en train d'être autopsiés à Tel Aviv pour confirmer qu'il s'agit bien notamment de la mère de la famille Bibas et de ses 2 enfants en bas âge enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023. Sur la place des otages de Tel Aviv, au moment de la remise des cercueils à la Croix-Rouge, eh bien la stupeur et l'émotion ont traversé la foule. Reportage de Pierre-Olivier, envoyé spécial de RFI pour Radio France.
L'écran géant qui retransmet habituellement les retrouvailles des otages avec leur famille est resté noir ce jeudi. Mais les images des 4 cercueils remis par le Hamas circulent sur les téléphones et ravivent les douleurs.
Moi j'ai la gorge qui serre, j'arrive pas à parler, c'est pas normal, on peut pas tuer des enfants comme ça.
À quelques mètres, ce grand-père de 3 petits-enfants a accroché une peluche d'ourson sur un drapeau israélien.
Il y a un mois, c'était l'anniversaire de Kfir. Et aujourd'hui, il revient dans un cercueil. Je ne suis pas en colère, je suis triste. Que ressentir d'autre quand on voit le cercueil d'un enfant ?
Sur les images, on voit au-dessus des cercueils une affiche installée par le Hamas. Dans une tache de sang, la famille Bibas souriante.
C'était sordide, comme tout le reste. Il y a une image très forte, je trouve, c'est que le temps que les cercueils arrivent jusqu'en Israël, il faisait un temps atroce. Les cercueils sont arrivés sous la pluie et arrivés sur la terre d'Israël. Le soleil est revenu et peut-être que ça va nous apaiser un petit peu, je sais pas, il y a un rayon de soleil qui est apparu.
Une fois les cercueils rentrés en Israël, sur la place des otages, c'est en chantant que certains ont décidé d'honorer la mémoire des défunts.
Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, déjà en pleine procédure judiciaire qui doit confirmer ou non sa destitution, se retrouve aujourd'hui à nouveau devant les juges. Cette fois, c'est la Cour pénale qui doit juger si la déclaration de la loi martiale en décembre dernier peut être considérée comme une insurrection contre l'État. Un crime sévèrement puni en Corée du Sud, Celio Fioretti.
Cela devient presque une habitude, les soutiens du président destitué Yoon Suk-yeol se rassemblent devant le tribunal pour dénoncer une justice corrompue. Mais désormais, ces manifestants d'extrême droite doivent être à 2 tribunaux à la fois, la Cour constitutionnelle et la Cour pénale où le président s'est rendu aujourd'hui. Pour ce manifestant, les 2 procès en simultané sont vus comme une persécution.
Le fait qu'un président soit jugé dans 2 procès en même temps est insensé et même ces procès en eux-mêmes sont absurdes. Les forces de gauche ne cherchent même plus à se cacher, elles veulent abattre le président.
C'est la première fois qu'un président en exercice doit comparaître au pénal. Si les juges le reconnaissent coupable d'insurrection contre l'État, le président Yoon risque la prison à perpétuité ou la peine capitale. Cet autre manifestant envisage déjà de résister à la sentence.
Si par malheur il était condamné,
il y aurait des résistances, non seulement en Corée du Sud, mais aussi parmi nos compatriotes expatriés aux États-Unis, au Japon et ailleurs. Il faudra se mobiliser, manifester partout et tout le temps, ne pas se laisser faire.
Il y a peu de chances cependant que la peine capitale soit prononcée. La Corée du Sud ne l'a pas appliquée depuis 1997.
C'est Liu Furetti en Corée du Sud pour France Culture. La météo demain avec un ciel nuageux sur la majeure partie des régions et l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest qui apportera des pluies au réveil sur la Bretagne. Les éclaircies sont tout de même attendues sur le pourtour méditerranéen. Les minimales sont moins froides avec 1 à 6 degrés de la Bourgogne à l'Alsace, 6 à 11 degrés sur le reste du pays et même jusqu'à 14 degrés sur le Pays Basque.